Bonjour, bienvenue à Aime l'été. Et oui, jeudi 18 août, ici Chantal Lavoie. Je vous retrouve de nouveau pour partager de belles idées de sortie, faire en votre compagnie de splendides découvertes avec nos invités, réfléchir à l'importance d'agir aujourd'hui, non pas demain. On s'intéresse à la beauté, à la nature, on amène nos enfants et nos jeunes à s'initier au théâtre, dans les parcs, et on revisite le cirque dans un endroit inusité. Et puis enfin, on continue simplement à profiter de l'été. Alors aujourd'hui, on découvre une ferme florale dans les cantons de l'Est qui promouvoit des pratiques éco-responsables. Alex à la campagne, c'est Alexandra Truchot, une fleuriste non conventionnelle qui ne travaille qu'avec des fleurs locales. On va la rencontrer. Aussi, le cirque de la Pointe Sèche était de retour cet été avec un tout nouveau spectacle à Saint-Germain de Kamouraska dans un lieu unique et spectaculaire. Le théâtre La Roulotte est toujours en vie dans les parcs de Montréal, une institution dans le domaine du théâtre jeunesse. Et puis on termine demain la série de spectacles de cet été. Alors on en profite, on en parle avec le comédien et metteur en scène Philippe Robert. Mais pour commencer, notre chroniqueuse bien-être nous invite à ne pas procrastiner. Voilà, c'est Aime l'été.
Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Que tu pourrais faire demain? Je pourrais faire une sieste, ma to-do list, passer le balai. Appeler ma mère, faire du bénévolat. On va-tu prendre un café, on va-tu prendre un drink. Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil. Sortir dehors, ça me ferait pas tôt. Regarder une série, faire une deuxième. Me couler un bain, me semble je le mérite.
C'était Lisa Leblanc, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? Un conseil qui ne sera pas, je pense, celui de notre chroniqueuse bien-être, Julie Châtelain, qui nous parle d'une meilleure gestion de nos priorités pour éviter la procrastination. Bonjour, Julie.
Bonjour Chantal.
Oui, alors c'était une belle introduction finalement. Alors ça.
J'ai bien aimé la chanson.
Oui, c'est ça. Procrastiner, hein, ce n'est certainement pas ce qui rend très heureux, je pense, et ça peut sans doute créer beaucoup d'anxiété. Enfin, vous allez nous donner des astuces un peu pour justement ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Exactement. Et en fait, c'est très difficile parce que même moi, dans cette situation-là, c'est facile de repousser les tâches qu'on n'aime pas. Parce que procrastiner, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas faire les actions qu'on trouve plates, comme exemple la comptabilité, faire le ménage. C'est des choses qu'on fait. Wow. Mais les choses qu'on aime, ah, c'est bizarre. Là, on ne va pas du tout procrastiner. Ça va nous faire plaisir d'aller voir nos amis.
Ah ben oui, bien sûr.
C'est bon. C'est
on
ça.
Est toujours partant.
C'est ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça quand même intéressant parce que la procrastination, c'est tout le négatif que ça peut amener de tout le temps remettre au lendemain.
Mais oui, c'est ça.
Que dans le fond, la première stratégie, mais c'est de trouver une motivation.
Oui, ça, c'est la première chose. Oui, il faut se motiver.
La première chose, parce qu'on n'est pas motivé. Fait que comment qu'on peut se motiver? Ça c'est déjà le gros défi. Exemple, les gens qui veulent se remettre en forme, mais ils vont se faire 2 semaines, puis après ça, ils arrêtent d'aller s'entraîner, mais ils ne sont pas motivés.
Et voilà.
Fait que la première étape, c'est de se poser la question, c'est quoi qui me motive de façon générale? C'est quoi qui me fait plaisir, qui me fait du bien? On trouve, en fait, c'est quoi notre carotte? C'est quoi la carotte? On le sait, la métaphore de l'âne et de sa carotte, là, l'âne, là, il avancera pas. Si on lui met une carotte devant, il va avancer.
Ouais.
C'est quoi, nous, notre
carotte? C'est ça, il faut avoir un objectif clair, en fait,
exactement,
qui nous motive.
Exactement, mais en fait, c'est au-delà de l'objectif, parce que des fois, l'objectif, on se le met par pression. C'est vraiment dire qu'est-ce qui motive. Comme exemple de dire, ben OK, cette action-là, je ne l'aime pas vraiment. Comme tout ce qui est en lien avec la comptabilité, moi, j'aime pas ça. Bon, ben qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Ben je vais me dire, ben peut-être que si je me mets de la musique, que je me crée une ambiance, finalement. Quand je vais mettre ma musique que j'aime le plus, qui me fait du bien, ça va pas changer. Il faut quand même que je fasse mon rapport d'impôt. Il faut quand même que je fasse ces trucs-là que j'aime pas, classer mes papiers. Mais je vais mettre une ambiance et je vais, OK, tu sais, je danse en même temps, j'appelle un ami. Tu sais, je trouve je me fais un bon café. Qu'est-ce
Mais oui, c'est ça. Oui, on se fait plaisir en même temps. C'est ça.
Ouais,
on met toute une belle ambiance, comme vous dites. Alors, c'est ça.
Oui.
Se prendre un café ou enfin, quel que soit le.
C'est ça.
Oui.
C'est, en fait, c'est vraiment de soi-même se demander finalement c'est quoi qui me motive. C'est vraiment ça. La deuxième stratégie, c'est attaquer le morceau le plus gros en premier. Puis là, les gens vont dire wesh, c'est la chose qui me tente le moins de faire. Je le sais, mais c'est ça, en fait, la stratégie, c'est de commencer la journée avec ce qui nous motive le moins. Parce que notre cerveau, il est mentalement et émotionnellement créé de sorte que la réalisation d'une tâche va nous rendre heureux. C'est automatique.
Oui, et puis en même temps,
quelque chose. Ouais,
de s'attaquer au plus gros morceau, en fait, parce qu'on dit toujours, ben c'est vrai, là, mon Dieu, il faut que je fasse ça, ça va être long, mais s'attaquer au plus gros morceau en premier, c'est peut-être la meilleure des choses, parce qu'après, on se sent beaucoup plus léger. Déjà, les autres tâches vont nous paraître beaucoup plus simples. Mais vous savez, j'ai déjà lu, bon, ce qui est difficile, en fait, ce n'est pas de faire les choses parfois, mais c'est de... Le plus difficile, en réalité, c'est de ne pas les faire. Parce qu'à partir du moment où on commence, là, ben justement, ça va débouler. On va s'apercevoir que... En fait, surtout quand c'est des tâches pour lesquelles on a moins de compétences aussi, des fois, là, quand on se sent moins en contrôle. Et puis, c'est ça. Mais là, si on repousse de plus en plus, ben, ça nous paraît encore une montagne, enfin, une plus grosse montagne.
Oui. Oui, une grosse montagne. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le cerveau, lui, là, le fait de faire une tâche, en plus, qui est encore plus difficile, ça va déclencher de l'endorphine, l'hormone du bien-être. Fait que c'est de voir aussi que cette action-là qu'on pense qui est banale, l'exemple de faire la vaisselle, mais ça ne nous tente pas de la faire, mais notre cerveau, lui, là, ça va automatiquement amener de l'enthousiasme, de la fierté. nous-mêmes, après, on fait je me sens mieux, mon comptoir est
ouais.
propre.
C'est tellement vrai ce que vous dites. Et puis, d'ailleurs, c'est drôle parce que, bon, si je parle de mon expérience personnelle, bon, ça fait quand même depuis le début de l'été, je suis occupée, alors, depuis le début de l'été, je dois, j'ai des factures à envoyer et à chaque fois, je remets ça. Mais évidemment, c'est quelque chose qui se retrouve toujours sur ma liste. Et puis, bon, parfois, je me réveille la nuit, puis là, je me dis, j'ai pas encore fait mes factures. Bon, mais tu sais, c'est con, là, c'est vraiment, c'est juste une facture, là.
Oui, mais je comprends parce que je fais la même chose. Je mets ça de côté, puis tout d'un coup, je me réveille la nuit, je me dis, là, je réveille, donc quand c'est rendu, j'y pense la nuit. Bon, il est temps que je
Ça va mal, oui.
Ça va mal, c'est ça.
En tout cas, alors donc, s'attaquer au plus gros morceau, ça... et puis après ça, vous allez retirer une fierté de ça, évidemment, puis une satisfaction.
Oui. C'est ça. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est morceler la tâche. Donc, quand c'est vraiment une tâche qu'on voit là, qui est grosse, mais là, c'est ça, c'est ça. Ben, regarde, je vais manger l'éléphant une petite bouchée à la fois. Au lieu de l'avoir dans toute son entièreté, exemple, on a notre ménage à faire, ben, pas voir comme le ménage. Prendre ça de, dans mon ménage, j'ai ma salle de bain à faire, j'ai ma vaisselle, j'ai à faire mon lavage. De prendre un à la fois,
même
de faire une petite liste. Puis là, ça peut faire que, de mon ménage, je coche au fur et à mesure, puis tranquillement, je me rends compte que j'ai fini mon ménage.
Ouais,
que ça
n'a
pas été long.
C'est vraiment pas bête, ça. C'est vraiment pas bête.
Mais
tout à fait.
C'est ça. Et c'est pas compliqué, en fait. C'est des petites choses que ça va faire toute la différence. Et ça, on n'a pas le goût, comme je dis, en plus, parce qu'ils peuvent tous se mélanger ensemble, ces tâches-là, mais tu te dis, je vais me mettre qu'est-ce qui va me motiver pour, tu sais, exemple, j'ai fait mon ménage, bien là, je sais après ça. Moi, je vais aller me chercher une bonne crème glacée. Bon, c'est un exemple comme ça. C'est pas ça, mais tu sais, de dire, ça me fait vraiment du bien. Mais parfait, comme ça. Après ça, on est content, on est fier, puis on a amené une récompense.
Oui, c'est ça. Puis être peut-être plus précis, c'est ça. Bon, si on dit, aujourd'hui, c'est la salle de bain, c'est plus simple que dire, j'ai du ménage à faire, ça. Du ménage, c'est un peu abstrait, finalement. Donc, tandis que la salle de bain, c'est concret. Ouais.
C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est une bonne façon de faire, mais ça, on peut faire ça avec tout ce qu'on a à faire comme tâche qui nous dérange. On voit ça, on la rapetisse le plus qu'on peut. Puis même la salle de bain, exemple, il y en a, ils détestent faire la salle de bain. Même la salle de bain, on le divise.
Ouais.
Je lave mon bain.
Exact. Et puis, c'est ça. On peut la diviser encore là. Alors, c'est une bonne idée encore, oui. C'est quoi la conséquence, là, finalement, de ne pas le faire?
Oui. Bien, c'est ça. Ça, c'est la dernière stratégie. En fait, ça, c'est d'évaluer en fonction de la conséquence. Fait que si je repousse une tâche, c'est quoi la conséquence négative de la repousser? Exemple, je ne paye pas mes factures. C'est quoi qui va arriver comme conséquence? Bien, peut-être qu'à un moment donné, je vais recevoir un bill j'ai pas payé mon compte téléphone, ça fait 2 mois. Bon, là, je dois payer le double, tout d'un coup, j'ai des intérêts. C'est quoi la conséquence négative de pas le faire?
Mm-hmm.
Et souvent, c'est en fonction de ça, parce que des fois, là, on va repousser jusqu'à la limite, mais là, il y a des situations qui sont imprévues, des situations d'urgence, et là, des fois, on se retrouve que qu'on a repoussé, là, on est trop tard. Là, on est mal pris.
C'est ça. Ça peut nous coûter soit plus cher ou des frais d'intérêt inutiles, surcroît de travail, parce que des fois, ça nous entraîne à faire d'autres, ça nous oblige à faire d'autres démarches en plus. Alors, imaginez.
Bien, c'est pour ça. Fait que ça, c'est une façon d'évaluer. De dire, si je ne fais pas mon ménage pendant une semaine, c'est quoi le pire qui va arriver? Je vais avoir des petits poils de chat qui vont peut-être un peu plus, qui vont rouler sur le plancher. Est-ce que c'est grave? Non. J'habite toute seule. Est-ce que ça me dérange? Non. Bon. Mais c'est ça, c'est d'évaluer la personne. Il y a quelqu'un qui pourrait dire, moi, c'est impossible. Je peux pas marcher après ça puis j'ai des poils de chat. Bon, mais parfait. La conséquence négative de ne pas le faire, c'est que finalement, tout d'un coup, je suis plus bien dans mon environnement.
C'est
de voir c'est quoi la conséquence finalement. Puis c'est d'évaluer, c'est beaucoup avec le court, moyen, long terme. C'est quand on fait de la procrastination, c'est qu'on repousse, on voit pas nécessairement à long terme ce que ça pourrait
entraîner.
Ça pourrait nous apporter.
Et puis sur notre estime de nous-mêmes aussi, puis enfin sur le travail que ça va exiger. Puis enfin, bref, finalement, on accumule et puis bon, c'est pire après. Alors, c'est ça, on n'a pas réglé notre problème. En tout cas, on n'oublie pas non plus de s'encourager, de se féliciter à chaque effort.
Toujours.
Toujours,
c'est très important. Et on reste flexible ici, là. Tu sais, on est quand même, on a un bon discernement, puis on est en mesure de dire, c'est pas la fin du monde si je fais pas ma tâche.
Exact. Donc, c'est de bien se connaître, hein? Donc, finalement, faire une meilleure gestion de nos priorités, c'est ça.
Oui.
Alors, voilà.
C'est vraiment ça.
Ça revient toujours à peu près à la même chose, au fond, ouais.
Bien, en fait, c'est pas mal. Tout ça, c'est pas très, très sorcier parce que c'est plus on se connaît soi-même. Et mieux on va se sentir et mieux on va gérer notre quotidien et
tout à
nos
fait.
Relations, tout ça là.
D'accord, Julie. Ben, en tout cas, ça a été fort intéressant de réfléchir à tout ça. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine encore.
Oui.
On n'a pas fini nos beaux sujets. Alors merci, Julie.
Ça me fait vraiment plaisir. Très belle journée à toi.
Ouais, et puis bonne semaine encore une fois. Ouais.
Merci.
Au revoir. Bye bye.
À chaque époque, on se cherche un peu et on se demande si on se connaît. On est nous-mêmes, on fait ce qu'on peut, on changera pas, c'est ce qu'on se promet. Entre bitume et tapis rouge et slalomé de part en part, je côtoie la dèche et l'opulence, j'apprends à faire le grand écart. Ma vie propose tellement de thèmes, parfois je fonce, parfois je freine, je vois les deux côtés du système, pourtant je me sens pas schizophrène. J'essaie de pas trop faire d'erreurs et dans mes choix je me sens libre. Je crois en ce truc du fond du cœur, tout est une question d'équilibre. C'est pour ce besoin d'équilibre que j'ai dû prendre un peu de risque. Après un mauvais coup du sort, ma vie partait pour être triste. Écarté des terrains de sport comme un sursaut, j'ai compensé. J'avais besoin d'un autre support, dans l'écriture je me suis lancé. C'est pour ce besoin d'équilibre qu'il me fallait de l'aventure. Toute mon histoire se refermait, fallait trouver une ouverture. J'ai touché l'accélérateur pour retrouver des sensations. Car comme je marche à deux à l'heure, il me fallait une compensation. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, les pieds sur terre. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. Dans ma bulle, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. Alors j'ai croisé le showbiz, j'ai vu le royaume des égaux. Qui pourra faire le plus d'entrées, qui provoquera le plus d'échos. Je ne cracherai pas dans la soupe, là où je suis, je me sens bien. Mais pour garder mon équilibre, je n'oublierai pas d'où je viens. C'est pour ce besoin d'équilibre que je garde un peu de hors-piste. Car j'aime aussi la vie d'humain quand s'interrompt la vie d'artiste. Entre la lumière de la lune et celle des spots, maintenant je sais que j'ai ma place à l'Olympia, mais aussi dans les MJC. Je prends du recul, je prends des gants quand je vois le strass et les paillettes. Les gens qui se sentent importants, moi ils me stressent et sont pas nets. Je ne cracherai pas dans la soupe, j'ai rencontré des gens très bien. Mais je me reconnaîtrai toujours plus dans ceux qui viennent là d'où je viens. C'est pour ce besoin d'équilibre qu'on a joué dans des cathédrales, mais juste après, yeux dans les yeux, avec un public carcéral. C'est pour ce besoin d'équilibre que tous mes sentiments se touchent. Quand je vois le public se lever, je pense à mon fils qui se couche. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, les pieds sur terre. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. Dans ma bulle, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. Si j'aime la nuit, c'est grâce au jour, et j'aime le jour grâce à la nuit. J'aime être tout seul grâce à la foule et grâce au silence. J'aime le bruit, besoin de tout ça pour que ça vive. Je veux me sentir fort et avoir peur. Tout est une question d'équilibre, je crois en ce truc du fond du cœur. Si dans une vie ça part en vrille, c'est que l'équilibre a vrillé. Pour le garder, c'est capital de pas dormir sur ses lauriers. Alors je reste vigilant, quitte à recréer du désordre. Entre le glace et le brûlant, j'aime la douceur, j'aime que ça morde. L'équilibre est dans la nature, j'invente rien, ça va sans dire. Il faut de la pluie et du soleil pour que la fleur puisse s'épanouir. Il faut de l'exception dans la règle pour que la vie ait plus de goût. Il faut de la force et de l'adresse pour que l'enfant se mette debout. Je mets de la lumière pour voir l'avenir, mais parfois j'aime autant l'éteindre. Dans la vie, on se fout de l'objectif, ce qui compte, c'est la route pour l'atteindre. Alors j'avance sur un fil parmi les chemins qui s'éparpillent. En équilibre malhabile, je suis un funambule à béquille. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, les pieds sur terre. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, l'air dans ma bulle. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule.
C'était Grand Corps Malade, ce slameur, poète, auteur, compositeur, interprète français, la pièce Funambule. Eh bien, après une première édition en 2019 qui a surpris par sa qualité, son originalité, la barre était haute pour le second tour du Cirque de la Pointe Sèche à Saint-Germain. J'accueille Élim Gilbert, qui est le cofondateur et promoteur du Cirque de la Pointe Sèche à Saint-Germain de Kamouraska. Bonjour!
Bien le bonjour!
Eh bien donc, oui, Élim Gilbert, la première édition de l'été 2019 avait effectivement suscité tout un engouement quand même du cirque dans les falaises de Kamouraska avec, je pense, des spectateurs qui étaient dans des conteneurs à bateaux installés près du fleuve, quelque chose comme ça. J'étais pas là, mais enfin, j'ai lu que ça avait été vraiment une belle proposition. Et puis, alors là, vraiment, les attentes étaient hautes pour un deuxième tour. Bon, il y a eu la pause pandémie qui a touché tout le monde, c'est sûr. Alors là, vraiment, vous êtes de retour en 2022, mais j'imagine que vous avez dû travailler fort pour réussir à être à la hauteur de ce premier spectacle que vous aviez donné.
Ben oui, effectivement, on a travaillé fort. On a des artistes incroyables cette année, encore une fois. On a été chercher une metteuse en scène, là, Alex Dufresne, qui a fait un excellent travail pour être à la hauteur du premier spectacle. Puis, on est très, très content là, du résultat. Ça, on a réussi à changer aussi le décor, là, même si notre décor est une paroi rocheuse.
C'est ça, c'est un lieu naturel. Parlez-moi-en de ce... Comment vous avez découvert ça?
En fait, c'est sur notre terrain, là, moi et ma blonde.
Ah, d'accord, mais, c'est chez vous?
C'est chez nous, c'est dans notre cour.
Ah ben, dis donc! Vous faites du
donc,
travail à la maison.
Exact. Fait que on voulait plus aller travailler en ville dans des grands cirques, fait qu'on a décidé d'amener le cirque à la maison finalement.
Ah mais quelle bonne idée. Alors finalement vous avez pas eu à trop chercher en effet, et puis vous avez laissé libre cours à votre imagination, à votre imaginaire, parce que vraiment vous avez conçu vos spectacles en fonction de ce lieu aussi très particulier.
Oui, exactement. Ce qu'on voulait c'était de mettre en valeur les éléments naturels du décor féerique qu'on a ici. Là, on a un petit ruisseau, on a fait une grande passerelle là, d'environ 250 mètres pour se rendre au lieu du spectacle. Puis dans ce sentier-là, c'est animé par les artistes. C'est comme la mise en bouche du spectacle. Mm-hmm. Donc, tous les personnages prennent un peu là, place pour montrer aux gens de quoi ça va avoir de l'air après ça dans le spectacle.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'on a un petit bar à l'entrée, puis ensuite, ça, c'est 17 containers qui sont empilés, trois de haut, dont le public est dans les containers, donc est à l'abri de la pluie, des intempéries et des maringouins.
Évidemment.
Et puis le spectacle, lui, se déroule sur la paroi rocheuse. La scène est comme en sable. Fait que ça se prêtait très bien là pour le thématique de cette année, là, charcoal qui se passe dans une mine. Fait que c'est tous des travailleurs de mine qui
Acrobates, hein, finalement.
Des mineurs acrobates.
Eh oui, qui viennent de partout dans le monde. D'ailleurs, hein, vos artistes viennent d'un peu partout, hein, je pense, d'ici,
oui,
mais d'ailleurs des États-Unis, du Mexique, je pense, un peu partout, quoi.
Oui, exact. Chili, Brésil, France, un peu partout.
Alors finalement, vous réinventez encore et encore le cirque. Je trouve ça formidable parce que vraiment, cette année, en fait, depuis plusieurs années, de toute façon, et là, on peut remonter au Cirque du Soleil, bien entendu, mais quand même, je pense qu'il y a toute une génération enfin, de nouveaux talents qui s'est développé, qui vraiment crée, enfin, de tous bords, tous côtés, des projets fabuleux. D'ailleurs, ben, juste le choix du site, ça tient le spectateur un peu en haleine, hein, sur le bout de sa chaise, puisque c'est sûr que faire des sauts dans le vide à partir de la falaise, c'est quelque chose, là?
Ben oui, effectivement, le lieu enchanteur parle beaucoup de lui-même. Juste être là donne vraiment un caractère spécial au spectacle. Puis, effectivement, là, de voir les gens soit sauter de la paroi, soit être accrochés sur la paroi pour faire de la danse verticale, ou soit de cette année, c'est de la corde volante. On avait le trapèze la première année. On a réussi à accrocher des câbles sur la roche, un peu sur les containers. Donc, c'est comme si on s'accrochait un peu dans le ciel, si on veut. Là, on s'invente un toit que nous, on n'a pas. Mais par contre, ça donne l'opportunité de même dans les temps noirs, on peut voir les étoiles, la lune, fait que ça donne toute une autre atmosphère qu'une salle de spectacle traditionnelle, si on veut, aurait pas le loisir d'avoir.
Ouais, non, c'est ça, c'est sûr qu'alors on réinvente vraiment tout ça. Maintenant, quand la météo est moins bonne, qu'est-ce qu'on fait?
S'il pleut, il y a un spectacle quand même. C'est sûr que si c'est l'orage et les éclairs, tout ça, on n'a pas le choix d'annuler. Mais pour l'instant, en 2 ans, on a annulé un spectacle.
Ah, ben dis donc, vous avez une bonne moyenne, c'est parfait. Et puis, c'est pas trop nécessairement dangereux avec s'il pleut, effectivement, vous êtes quand même... le spectacle est conçu pour que ça ne soit pas trop risqué pour vous non plus.
Exact. Ouais, le spectacle est conçu, pensé en fonction de la pluie aussi. Comme cette année, il y a un numéro qui est changé pour un autre numéro. Si jamais il y a de la pluie parce que c'est impossible de le faire parce que c'est trop glissant, mais c'est ça, on le remplace par un autre numéro qui est aussi impressionnant. On a fait un spectacle là, sous la pluie intense, puis je dois avouer que j'ai même trouvé qu'il y avait un petit quelque chose de plus qui accrochait une autre dimension. On se dit, les artistes sont capables de faire ça, même sous la pluie, on dirait que ça devient encore plus impressionnant.
Finalement, vous réussissez toujours, c'est ça, à trouver un petit quelque chose de plus, c'est merveilleux. Ça, on peut voir ça finalement jusqu'en octobre, je pense.
Malheureusement, c'est jusqu'au 4 septembre.
Ah oui, 4 septembre, je suis désolée, oui. C'est
pas
ça.
Oui, c'est ça, il nous reste trois semaines de représentation.
C'est ça, parce que là, je me trompais, parce que je voyais octobre, parce que vous avez une école aussi, vous avez une école de cirque à Saint-Germain.
Bien, pas encore,
mais c'est un souhait, c'est un projet.
À partir d'octobre, il va y en avoir une.
Ah, d'accord, c'est ça.
On est en train de mettre tout ça en place. Ça va être une école de cirque là, dans l'église du village pour donner une autre dimension, donner une deuxième vie à cette église-là. Et puis, ça va être jumelé avec un projet d'escalade. Il va y avoir de l'escalade de blocs aussi. Puis, un atelier de poterie qui va ouvrir ses portes aussi là, pour donner des cours aux jeunes et aux moins jeunes, qui va ouvrir ses portes en octobre aussi. Donc, ça nous occupe bien.
Oui, alors vous êtes bien impliqué dans votre milieu. Écoutez, vous avez conçu des refuges aussi, hein, dans votre, je pense, c'est bien ça?
Oui. Et oui, effectivement, on les appelle les perchoirs du cirque. C'est sur le même terrain là, que le spectacle du cirque, donc ça se fait tout à pied. C'est des petites unités là, vraiment spéciales, un peu à l'image du cirque, si on veut. Là.
Ah oui,
qui sont perchés dans les parois, c'est accroché avec des câbles, c'est suspendu ou c'est directement sur le dessus de la montagne.
Alors, on peut réserver. Écoutez, on aurait pu en parler juste de ce sujet-là. C'est fantastique. Il faut aller voir sur votre site, vraiment. Alors, Élim Gilbert, là, et puis allez voir, vraiment, je vous conseille. Élim Gilbert, cofondateur et promoteur du cirque de la Pointe-Sèche à Saint-Germain-de-Kamouraska. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Vous écoutez Aime l'été.
Et oui, Aime l'été, deuxième moitié d'heure. Ici Chantal Lavoie. Je remercie mes collaborateurs à la recherche Claire Guérin et en régie Nicolas Zwartmann. Ah ben, on a eu chaud ce matin, oui, parce qu'il y a un incendie qui s'est déclaré ce matin, en fait, près du Théâtre du Nouveau Monde au centre-ville de Montréal. Alors, les pompiers, fort heureusement, ont pu rapidement maîtriser les flammes. Aucun dommage n'est à déplorer hein, sur l'immeuble du théâtre. Mais en tout cas, chose certaine, on pouvait quand même voir d'épaisses colonnes de fumée noire à proximité. Alors, c'était plus spectaculaire que grave, fort heureusement. Alors, il est encore un peu tôt pour dire si les activités du TNM, en tout cas, seront perturbées par cet événement. Enfin, j'imagine que non. Évidemment, la saison d'automne qui s'en vient. Alors, à venir pour cette deuxième moitié d'heure, après la pause qui va suivre, la pause musicale, on accueillera Alexandra Truchot, qui est une fermière fleuriste et propriétaire de la ferme florale Alex à la campagne. C'est à suivre.
sans se penchant pour une personne, l'être aimé, sans les ailes que ça vous donne d'être aimé, on reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes, sans cette attirance qui plane sur le monde, dont on est toxicomane, tout le monde. On reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. L'envie de voler illégitime passe par des moments intimes. De jalousie, des bagarres, mouchoirs lancés des trains partis dans les gares, on reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. Si l'amour est une montgolfière, la vie un voyage pas long à faire, montant au-dessus des villes, des campagnes, sous l'effet de nos baisers de propane. Cœur léger dans les nacelles, les amoureux volent dans le ciel. Les en bas, les cœurs lourds de ceux qui n'ont pas d'amour. Sans l'amour et ses délices, qu'en est-il? C'est comme un avion sans hélice, inutile. On reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. Si l'amour est une montgolfière, la vie un voyage pas long à faire, montons au-dessus des villes et des campagnes, sous l'effet de nos baisers de propane.
Alain Souchon aura des pâquerettes. Et oui, les pâquerettes, ces fleurs vivaces qui, dès le printemps, envahissent gracieusement les pelouses et les champs. La pâquerette qui serait en France et en Europe la vraie fleur de Pâques, enfin l'original, de là son nom, parce que les champs sont remplis de pâquerettes au printemps et à Pâques là-bas. Bon, parlant de fleurs, nous allons parler d'une ferme florale située à Magog. La ferme florale Alex à la campagne. J'accueille sa propriétaire, et oui, sa propriétaire Alexandra Truchot. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Mais très bien, vous-même.
Mmh. Dans votre champ de fleurs aujourd'hui.
Oui, dans votre champ de fleurs. Alors, j'imagine que c'est le bonheur.
Oui, ah ben oui, c'est sûr. Bon, aujourd'hui, c'est quand même plus de la pluie, mais en général, oui, c'est vraiment un gros bonheur.
Ah oui, ben on a eu un bel été. Alors, vous avez pu apprécier vraiment votre jardin. Alors, oui, avoir chez soi des bouquets de pâquerettes ou toute autre fleur, finalement, c'est toujours un grand bonheur. Et vous vous êtes donné comme mission d'offrir justement de la beauté. C'est ce que vous avez décidé de faire en quittant, d'abord en devenant propriétaire de la ferme locale Alex à la campagne située à Magog. Mais vous aviez une ancienne vie, c'est-à-dire vous étiez conseillère en marketing et vous avez décidé de faire le grand saut comme ça et de vous établir à Magog.
Oui, d'abord, ça a été le premier saut, ça a été de déménager à Magog, donc de passer de la vie urbaine à Montréal. Là, j'avais grandi là et puis on a décidé de partir à la campagne pour avoir un jardin, des poules et tout ça. Et puis finalement, le projet de lancer la ferme florale puis d'être fleuriste, en fait, parce que c'est principalement aussi ça, là, c'est pas juste de cultiver mes fleurs, c'est que je suis aussi fleuriste.
Exact.
C'est venu en étant dans le jardin, en voyant ce que je pouvais faire et l'ampleur là, de où je pouvais aller là, avec ce jardin-là.
C'est ça, parce que vous avez commencé petit, finalement un petit lopin d'à peu près 5 mètres carrés, quelque chose comme ça.
oui, c'est ça. Non, ben, c'est sûr que c'était tout petit. Ben, j'avais plus de vivaces. Mais pour les fleurs, vraiment, pour faire des bouquets, là, c'était tout petit la première année. C'était vraiment un essai, puis je veux dire, j'en vendais pas. Là. C'était vraiment pour voir si ça marchait.
Là, aujourd'hui, vous en vivez, mais ça a été progressif, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ben, ça a été progressif. J'ai pris mon temps pour que ça fonctionne bien. Puis c'est encore petit, dans le fond. Moi, je veux rester à échelle humaine, donc c'est pas une grande ferme en perte de vue. Là. C'est pas des hectares de fleurs, là. Mais c'est juste assez pour mes besoins. Puis oui, j'en vis maintenant là, depuis 3 ans là, à temps plein.
Exact. Donc, parlez-moi de ce cheminement. D'abord, vous avez toujours été attiré par les fleurs. Dès l'âge de 8 ans, vous aviez été très impressionné par les fameux jardins de Monet en France. Hein?
Oui.
Alors, et vos grands-parents aussi avaient de beaux jardins, je pense.
Oui, ben c'est ça. En fait, moi, ben mes parents sont français, donc on retournait l'été. Puis c'était vraiment deux jardins, deux univers complètement différents parce que les du côté de mon père, c'était à Paris, donc plus des roses, puis des fleurs un peu plus presque comme qu'on peut cultiver ici, là, dans le fond. Mais ma grand-mère maternelle était dans le sud de la France, donc là, c'était des fleurs ici qui sont un peu plus difficiles à cultiver, mais des fleurs de chaleur.
Mm-hmm.
Et puis j'ai des souvenirs vraiment très odorants aussi, liés aux odeurs. Ça s'est resté gravé en moi. Et puis j'ai voulu être fleuriste quand j'étais jeune. J'ai vraiment tanné beaucoup mes parents pour aller visiter tous les jardins qu'on allait voir, qu'on pouvait aller voir sur notre chemin en voyage. Mais finalement, bon, j'ai fait d'autres choses.
Ouais.
Et puis, je suis allée à l'université, en marketing, en littérature aussi. Et c'est plus tard là, que ce projet m'est revenu.
Bon. Alors, on peut dire peut-être aussi votre goût des fleurs, ça vient un petit peu aussi de la littérature, hein, parce que, bon, c'est très les beaux chants qu'on peut décrire, en fait, dans certains romans, quoi. Mais chose certaine, en fait, aussi, vous avez quand même suivi des formations, notamment des ateliers au Jardin botanique.
Oui, ben en fait, ça, c'était vraiment partout, le tout début. Après, j'ai suivi d'autres un peu plus professionnels. Mais au Jardin botanique, ça, j'habitais vraiment juste à côté, là, dans Chalaga. Puis je faisais partie des amis du jardin. Ça, c'était quand j'habitais encore à Montréal. Donc, je me suis lancée, là, j'ai suivi des petits cours avec eux. Puis ça m'a tout ouvert vraiment un autre monde. Puis après, évidemment, quand on a déménagé ici, là, j'ai moins été au jardin parce qu'on est quand même loin.
Oui, non, c'est sûr. Mais vous aviez d'autres sources, d'ailleurs.
Oui,
c'est ça.
Voilà.
Vous vous êtes laissé inspirer, justement, par des livres également, je pense. Oui. Ouais.
Oui, alors, dans le fond, quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose au Québec là, au niveau de la culture florale. C'était encore très marginal. Donc, il n'y avait pas de formation très spécifique là-dessus. Donc, je suis allée quand même tirer des enseignements de plus aux États-Unis, puis en Europe. Donc, ouais. Les fermes comme Florette Farm.
Exactement, qui est une pionnière hein, des fermières fleuristes en Amérique du Nord, justement.
Oui.
Alors, vous vous êtes inspirée de ça, hein?
Oui, donc ça, c'est un des livres qui m'a beaucoup aidée au début. Donc, en fait, c'est vraiment retrouver des fleurs plus fragiles, des fleurs qui ont plus d'âme, parce que les fermes florales, même aux États-Unis, il y a 10-15 ans, c'était juste des fleurs rigides qui se transportent plus facilement, qui vont supporter les 2 semaines, comme un peu les tomates.
Oui, exactement.
Les tomates qui doivent supporter le transport, on était rendu là avec les fleurs aussi. Puis Florette, elle a voulu commencer un mouvement où non, on retrouve des fleurs plus fragiles, mais pour ça, ben, il faut les vendre dans un circuit plus court, plus local. Donc, on a moins à les déplacer.
C'est ça, parce que, évidemment, plus c'est loin, ça veut dire plus de aussi de conditions chimiques, bien entendu.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis ça, je ne parle même pas du fait qu'on a délocalisé les fermes florales en Amérique latine puis en Afrique, là, où là, les conditions des travailleurs sont vraiment terribles.
C'est ça.
Mais c'est ça, Florette, elle a un peu repris ça, puis bon, elle avait aussi beaucoup travaillé sur son marketing, donc des belles images et tout, mais c'est vraiment le début là, des fermes florales à échelle humaine, puis avec des fleurs un peu plus délicates. Et puis après, ben, c'est sûr que là, maintenant, au Québec, il y en a beaucoup plus. Le mouvement, c'est beaucoup
lancé. C'est répandu, d'accord.
Depuis la pandémie, le début de la pandémie. Donc maintenant, on peut retrouver des enseignements là, plus spécifiques sur la ferme florale au Québec. Mm-hmm. Mais oui, quand j'ai commencé, c'était des livres, puis je suis allée chercher beaucoup sur la culture maraîchère aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui se recoupent, bien sûr.
Exactement. Oui. Tout le principe de la permaculture également. Donc, parce que vous avez hésité, au fond, entre le fait de devenir fleuriste ou productrice, mais productrice, justement, ça vous compliquait un peu l'existence parce que vous vouliez vraiment avoir surtout une entreprise éco-responsable et puis c'est ça, qui respecte aussi des normes éthiques en même temps.
Oui, ben en fait, pour être honnête, je sais pas, mais j'ai pas vraiment longtemps hésité entre productrice ou fleuriste. J'ai tout de suite voulu être fleuriste, dans le fond, parce que moi, j'ai besoin d'art dans la vie, au quotidien.
Oui, c'est ça, vous alliez l'art et la culture de fleurs.
C'est vraiment plus, il faut cultiver beaucoup de fleurs, puis c'est travail à la chaîne. Moi, l'art était vraiment important, là. Donc, je suis allée vers fleuriste. C'est sûr, c'est comme le point central de mon travail.
C'est l'aspect créatif.
C'est en plus.
C'est ça.
Mais là, le côté éco-responsable, c'est sûr, c'est plus le côté de rester à échelle humaine. Parce que ça, quand on grandit, on grossit un peu plus, ben c'est sûr que les choix, ils vont être un peu plus compliqués de rester éco-responsable, malheureusement. Mm-hmm. Alors que moi, c'est vraiment, ben c'est plus qu'éco-responsable. C'est en permaculture, donc c'est dans le respect total de mon environnement.
C'est ça.
Donc, j'essaie de perturber le moins possible tout ce qui est préexistant à la culture humaine.
Ouais.
Et donc, c'est sûr que ça a fait des choix qu'on ne peut pas devenir trop gros parce que c'est sûr que tout était fait à la main. C'est manuel, là, j'ai aucun tracteur, j'ai rien.
Et donc,
alors
vous avez lié vos deux passions, la terre et la création, et justement, oui. Ben, vous faites de magnifiques bouquets. Vous avez toutes sortes de concepts. Évidemment, vous vous fournissez pour des mariages, des événements, toutes sortes de choses, bien sûr. Et puis, on peut même s'abonner. Ça, c'est une belle idée que vous avez développée.
Ah oui, ben merci. En fait, je vais redonner. C'est pas moi qui a créé ça, mais c'est issu de plus du domaine justement maraîcher, les paniers,
Ah oui, comme les paniers bio. Alors donc vous le faites aussi pour les fleurs, je comprends.
Une alternative avec des fleurs. Donc c'est vraiment les gens nous aident là. Ils s'abonnent en avance, donc ça aide beaucoup pendant la saison plus hivernale. Et puis après, ben eux, ça leur fait des bouquets là, tout au long de la saison. Ça fait que ça fait des surprises.
Vous vous impliquez aussi dans votre communauté parce qu'il y a quand même un projet communautaire aussi auquel vous vous êtes jointe.
Oui. Oui. Donc cet été, ben, dans le fond, j'ai eu le plaisir de m'associer avec le Tandem, qui est le centre de pédiatrie sociale en communauté à Magog. Puis dans le fond, ils font un projet là où ils inspirent des jeunes à s'ouvrir à la culture de légumes, mais aussi de fleurs. Donc les jeunes ont des jardins pendant l'été à s'occuper. Et puis ben ils font des visites là dans différentes fermes du coin. Et donc justement là, cette semaine, ils vont venir visiter mes jardins de fleurs. Mm-hmm. Je vais pouvoir un peu leur apprendre mon métier puis comment ça fonctionne finalement. Et que oui, j'étais vraiment contente qu'ils me contactent pour ça parce que j'aime bien. J'essaie de aussi, je me suis beaucoup associée avec la fondation de l'hôpital de Menfremagog pour des événements de charité parce que je trouve que c'est important, c'est à petite échelle parce que je suis petite, mais j'essaie de faire au moins une à deux initiatives comme ça par année.
Ben, c'est merveilleux. Alors, on peut se faire livrer des beaux bouquets comme ça aussi souvent qu'on le souhaite,
bien sûr,
et puis selon les événements. Alors, vraiment, on fleurit notre maison avec vos fleurs. Et puis aussi, vous faites des ateliers. Alors, c'est quand même, vous pouvez aussi un petit peu former d'autres personnes comme ça.
Oui. Oui, ben ça a été un grand engouement là avec la pandémie. C'est sûr, les gens avaient plus de temps dans leur jardin. Donc j'ai lancé là il y a 2 ans des séries là d'ateliers sur la culture de fleurs puis sur la création de bouquets. Donc vraiment quand les gens veulent rajouter un peu de fleurs dans leur jardin pour faire des bouquets tout au long de l'été, fait que c'est un peu différent de cultiver parce qu'on voit souvent là un peu plus les jardins au Québec. Et c'est vraiment les gens aiment beaucoup ça. C'est très populaire. Et moi j'adore. Parler de fleurs, alors.
Ah oui, c'est ça. Ben, écoutez, on va sur votre site pour avoir tous les détails, bien sûr. Donc, Alex à la ferme. Alex à la ferme. Alex, j'étais pas loin. Alex à la campagne, voilà. Et puis, des ateliers floraux spécialisés en création pour toutes sortes d'événements et puis de belles fleurs coupées, tout ça, et fait de façon éco-responsable. Eh bien, Alexandra Truchot, ça a été très agréable de vous entendre parler de votre métier de fermière florale, voilà.
Oui, ben merci beaucoup de m'avoir reçu.
Au plaisir et passez une bonne fin d'été.
Merci.
Au revoir. Merci.
sur une vague et sur un fleuve au coin de la rue. Des voisins fous qui nous ressemblent. Une belle vie rectangulaire. Du vin joyeux, la terre qui tremble. Des fins de mois spectaculaires. Comme des gitanes enracinées, le cœur lié à contre-cœur. Nos caravanes ont échoué sur un rivage de bonheur. Un pays au milieu du pays, un univers dans l'univers. Semer dans la terre. On peut jamais imaginer de prendre la route, de prendre le large. Que nos roues se mettent à rouler sur la grande route. Un jour d'orage.
Voilà, c'était Marie-Pierre Gamache, chanteuse, compositrice, qui a tenté un grand coup pour se faire connaître du public québécois en participant à l'émission télévisée La Voix. Dès l'âge de 9 ans, la jeune femme originaire de Sorel-Tracy a ressenti son premier coup de cœur pour la scène et elle n'a pas cessé depuis d'entretenir cette flamme. En 2016, Marie-Pierre fait la rencontre du parolier Louis-Marie Mathieu, avec qui elle va entamer la création de son premier album. Eh bien, on va parlant de roulotte, hein, tiens, on va parler à Philippe Robert, comédien et metteur en scène de la pièce Le Nez, présentée cet été, qui a été présentée tout l'été, en fait, au théâtre La Roulotte. Bonjour!
Bonjour.
Bon, le théâtre La Roulotte, écoutez, c'est mythique, hein? C'est le plus vieux théâtre pour enfants au Québec, en fait. Et cette année, je pense qu'on fêtait les 70 ans.
Oui, tout à fait, absolument. Donc, ça a été fondé en 1952 par, bien sûr, Paul Buissonneau et Claude Robillard, ce qu'on oublie souvent, hein, ils étaient deux à l'avoir fondé. Claude Robillard était à l'époque responsable des parcs de Montréal et de ce qui passait. Et c'est lui, en fait, Claude Robillard, qui avait eu cette idée-là de fonder un théâtre ambulant pour tous. Hein, évidemment, un théâtre pour enfants, mais moi, j'aime bien dire un théâtre pour tous, hein, parce que les enfants ne viennent pas seuls au théâtre, pour des raisons évidentes.
Faut que ça plaise à tout le monde.
Exactement. Pour moi, quand des spectateurs, des spectatrices sont présentes, qu'ils soient enfants, adultes, peu importe leur âge, on doit s'adresser à eux. Donc, dès l'époque, c'était le cas. Et puis, on essaie encore aujourd'hui de s'adresser à tout le monde. Alors oui, 70 ans cette année. Il faut dire que la première production comme telle a eu lieu en 53. Donc, ça va être le 70e anniversaire de la première production l'an prochain. Mais ça fait 70 ans que l'institution existe.
Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Paul Buissonneau, enfin, on peut peut-être connaître le personnage de Piccolo, hein, ça c'est sûr. Et puis, bon, alors c'était en fait, c'était un théâtre ambulant, si on peut dire. En fait, c'est une scène mobile qui se déplace chaque été comme ça de parc en parc et qui présentait, qui présente des représentations extérieures comme ça devant des publics, enfin, les familles en plus. Et puis, alors c'est ça. Donc, c'est d'ailleurs, j'ai vu des archives, on peut encore voir des archives de l'époque, là, des années 50, justement. Et puis, on voit les gens là, qui montent la scène. Et puis, en fait, c'est fascinant.
Oui.
On a encore de vieilles images. images comme ça.
Oui. Ça se trouve même sur YouTube, hein, très facilement.
Oui, absolument,
allez,
c'est ce que j'ai vu.
Des mots-clés, roulotte, même roulotte 1952, là, sur YouTube, vous allez voir, des extraits des pièces. À l'époque, même, il y avait carrément des enfants qui faisaient la première partie du spectacle le plus professionnel, si on veut. Donc, ils venaient chanter des chansons, il y avait des musiciens, tout ça. On peut voir des extraits de ça, des extraits muets, hein, faut le dire. Mais même les comédiens de l'époque qui font le montage, démontage, ce qui est encore le cas aujourd'hui, il faut le dire. Le montage, démontage du décor du spectacle, c'est partie du contrat de la troupe. Alors, c'est fascinant de voir ça, à quel point, d'où c'est parti et le fait que ça roule encore aujourd'hui, oui.
Ouais, c'est ça. Puis à l'époque, on a présenté, j'aurais aimé ça voir plus d'archives de ce qu'on... Ça, c'est sûr que ça existe, là, mais j'ai essayé de faire une petite recherche, mais on présentait parfois des pièces. Bon, c'est sûr que Paul Buissonneau, lui, s'inspirait beaucoup de la Commedia dell'arte, bien sûr, dans ses pièces, mais il y avait des sujets, bon, je sais pas, ma Barbe bleue, là, ça me semble un peu... il y avait peut-être des pièces aussi qui étaient... Bon, qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on les adaptait à l'époque pour les enfants, mais tu sais, il y avait des contes, évidemment, qui étaient peut-être un petit peu plus... pour des jeunes enfants qui n'étaient pas évidents.
Plus sombres. D'après moi, ils mettaient l'accent sur certains aspects qui pouvaient plaire plus à tout le monde. Comme c'est le cas cette année, hein, on joue une adaptation d'une nouvelle du 19e siècle qui s'appelle Le Nez, d'un auteur russe qui s'appelle Nicolas Gogol. Ouais. C'est pas fait pour les enfants nécessairement au départ. Là, l'œuvre originale, il y a un côté glauque, un côté... c'est un homme qui se réveille un matin puis son nez a disparu de son visage.
Mais oui.
Donc il part à travers la ville à la recherche de son nez qui finalement il l'apprend n'a pas disparu mais s'est carrément enfui pour vivre sa vie. Alors dépendant comment on aborde ça, ça peut être plus sombre ou plus lumineux. Hein. Nous on a mis l'accent sur la candeur du récit, sur le côté clownesque, le côté drôle, le côté attachant des personnages, bienveillant, tout ça. Donc, il y a moyen, je pense, tout dépendant de l'angle d'approche, d'oser s'attaquer à des sujets peut-être moins évidents au départ, mais tout dépend de l'angle.
C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est sûr qu'à travers le théâtre pour enfants, les romans jeunesse aussi, on sait qu'on touche à des thématiques des fois difficiles, mais on arrive à bien cerner, à bien adapter tout ça pour des jeunes enfants. Et puis, c'est ça, vous l'avez adapté, cette pièce-là, vous avez fait la mise en scène, mais c'est pas la première fois que vous participez à la roulotte.
Non, en fait, comme auteur et metteur en scène, c'est la deuxième fois. Donc, à l'été 2021, on avait fait une création qui s'appelait Le rêve de M. Paul, l'autre histoire de la roulotte, qui était un conte théâtral librement inspiré de certains éléments du réel, de l'histoire, justement, de la roulotte. Comme si le véhicule lui-même racontait sa propre histoire à sa propre manière. Donc, c'est-à-dire de façon complètement fantaisiste. Donc, il n'y avait rien d'historique là-dedans. Là. C'était vraiment un conte théâtral inspiré de l'histoire de la roulotte. Il faut dire que l'an passé, on n'avait pas accès au véhicule lui-même parce que, souvenez-vous, c'était un autre monde il y a un an.
C'est vrai.
on ne pouvait pas se rassembler. Il fallait être en petit groupe ou carrément parfois pas du tout en groupe. Donc, on n'a pas pu sortir le véhicule qui est tellement gros qui attire automatiquement des foules importantes. Dans cette contrainte-là, on a décidé d'amener un conte, d'amener une histoire au cœur du véhicule, d'inverser le processus puis d'amener le véhicule au cœur d'une histoire.
De
faire un spectacle à plus petite échelle au niveau de la production, même si c'était ambitieux sur d'autres aspects, mais bon, de faire un genre de conte théâtral qui célébrait un peu l'histoire de ce véhicule-là dont on était privé l'an passé. Alors, ça aussi, j'ai dirigé ça, mais j'ai aussi participé à la roulotte comme comédien il y a maintenant plus de 15 ans, en 2006, quand j'étais finissant à l'École nationale de théâtre, parce que le contrat de la roulotte pour les comédiens, c'est réservé au finissant du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et de l'École nationale de théâtre. Il y a un côté tremplin professionnel à ce contrat-là. Ça fait partie du projet.
Ouais.
Même les concepteurs de décors, de costumes, peu importe, doivent avoir moins de 5 ans de pratique. Hein. Donc, c'est vraiment pour les jeunes. C'est vraiment une équipe de jeunes.
Je comprends. Alors, c'est une belle école.
Par un moins jeune, comme
c'est
moi.
C'est ça. Ça peut être une belle école. De toute façon, écoutez, il y a des grands comédiens connus là qui ont fait la roulotte à travers le temps. Et je voyais même Robert Charlebois. avait déjà participé à la roulotte quand
oui,
il était
ben
jeune.
Oui, Marc Favreau, bon, il y en a plein d'autres.
Mais oui, Yvon Deschamps, il y en a plein. Alors, ça a été une belle façon pour eux de démarrer leur carrière. Enfin, c'est fascinant. Et puis, bon, c'est sûr comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a des appels de projets là, qui s'en viennent. Je pense qu'on a... J'ai lu à quelque part qu'on avait jusqu'au 29 août, enfin, pour présenter un projet d'écriture pour la prochaine année.
Oui, c'est en fait c'est pour l'été 2024. Donc,
c'est ça. D'accord. Oui.
Le projet de l'été prochain, le projet de 23 est déjà établi,
okay.
Est déjà choisi, et puis même ça a été retardé. Hein. Le projet de cette année, c'était le projet de l'été 2020,
qui
a été annulé, bien sûr. Donc, il y a eu un décalage là, dans les années. Alors, l'an prochain, c'est un projet déjà prévu. Donc, à l'été 24, oui, c'est encadré par le Centre d'essai des auteurs dramatiques, le CEAD, qui est un organisme là, qui chapeaute, si on veut, la création des textes dramatiques originaux,
oui.
Qui encadrent les auteurs dans leur écriture, dans leur démarche. Et puis, c'est eux qui font l'appel d'offres. Et en effet, pour les auteurs là, qui ont une pratique.
C'est intéressant. Ça aussi, c'est un beau tremplin. Écoutez,
oui,
c'est tout le temps dont on dispose. Bon, il y a encore des représentations demain soir. Alors, on se renseigne, la roulotte. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Au revoir. Bonne journée.